Hébreux 10, 14 parle de ce que Jésus a accompli par sa mort sur la croix. Car par une seule offrande ou par un sacrifice, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Cette seule offrande ou ce seul sacrifice est le sacrifice qu'il a fait de lui-même sur la croix. Et par cette seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Cela signifie qu'il a pourvu à chaque besoin, dans ce temps et pour l'éternité, dans chaque domaine de la vie, pour chaque personne qui se confie en lui. Il n'y a rien de plus qu'il n'y ait à faire. Il a tout accompli. C'est un sacrifice complet et suffisant. C'est la première partie de cette affirmation. Puis il parle de ceux qui sont sanctifiés ou mis à part pour Dieu ou attirés plus près de Dieu. C'est un processus continu. Ce que Jésus a fait, c'est une fois pour toutes. C'est complet, c'est total. Mais notre appréciation de ce processus, le fait de nous l'approprier, est progressif. Mais nous devons commencer à partir du fait que le sacrifice véritable est entièrement complet. Quand j'exerce mon ministère dans le tiers-monde, ce que je fais assez souvent, j'essaie d'utiliser des images très simples qui vont aider les gens à comprendre. En fait, ces mêmes images très simples vont aider les gens en Nouvelle-Zélande, mais aussi les gens en Nouvelle-Zélande ne vont peut-être pas les réaliser. Je veux juste vous partager deux images que je l'utilise. Tout d'abord, au Pakistan, il y a un an et demi. Le Pakistan est 98% musulman et compte 84 millions d'habitants. Les chrétiens, et ce sont vraiment des chrétiens de nom, sont une petite minorité oppressée et méprisée. Mais le Seigneur a ouvert la voie pour Ruth et moi avec une équipe de 5 autres personnes pour y aller et passer 9 jours dans les 3 plus grandes villes pour proclamer la parole de Dieu. Nous avions annoncé à l'avance la prière pour les malades. Notre première réunion était à Karachi, qui est le port principal, une ville d'environ 8 millions de personnes. Et avant d'aller à la réunion, le responsable de l'équipe qui nous avait invités, une équipe de locaux pakistanais chrétiens, nous a amené voir le quartier chrétien de Karachi. J'ai vu beaucoup de pauvreté dans ma vie, mais je n'ai jamais vu une telle pauvreté ou une telle crasse. Cela m'a presque rendu malade physiquement. Et j'ai eu un petit aperçu de ce que c'était que d'être chrétien dans un pays musulman. Bon, ils avaient annoncé qu'il n'y aurait qu'une seule réunion à Karachi parce que d'autres prédicateurs étaient déjà venus avant et voulaient nous amener dans d'autres régions du pays, là où aucun autre prédicateur n'était jamais allé. Je dis donc au responsable, où allons-nous tenir la première réunion? Il me dit, dans notre église. Ayant mesuré l'état économique des gens, je me demandais comment ce serait. Je lui demandais, combien de personnes attendez-vous? Il me répondit, environ 600. Je lui demandais, combien votre église peut-elle contenir de personnes? Il me répondit, 300. Alors, je n'ai même pas pris la peine de comprendre. Ils ont embarqué notre équipe dans un petit fourgon et nous sommes allés dans la zone de Karachi où devait avoir lieu la réunion. Fidèles à l'heure pakistanaise, nous avions une heure de retard. Quand nous sommes arrivés près de l'église, nous n'avons jamais vu l'église, parce qu'à l'intersection principale, c'était pas de rue principale, juste des routes poussiéreuses, il y avait environ 3000 personnes postées à l'intersection. C'était l'église. La raison pour laquelle ils étaient venus, c'est parce qu'ils avaient entendu dire qu'on prierait pour les malades. Ils m'ont frayé un chemin à travers la foule et m'ont mis sur une petite estrade juste assez grande pour moi et ma Bible et un pulpitre. Et j'étais entouré de toutes parts de Pakistanais. Je veux dire qu'il n'y avait pas d'espace, pas de rangée, rien. Et ils étaient tous accroupis par terre. Alors, je me suis demandé, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ces gens? Et Dieu m'a donné cette pensée que je partage avec vous. Je leur dis, si vous étiez tous affamés et que je possédais une orangerie, je pourrais faire deux choses pour vous. Je pourrais prendre une orange de mon orangerie et vous la donner, ce qui calmerait temporairement votre faim. L'autre chose serait de vous amener dans mon orangerie, de vous montrer les arbres chargés de fruits et vous dire de vous servir. Je leur dis, ce soir, je vais vous amener dans mon orangerie et vous pouvez vous servir. C'est ce que je vais faire ce soir. Je vais vous amener dans l'orangerie. L'orangerie, c'est la vérité de la croix. Et ainsi, je leur ai prêché un bref résumé de ce que je vais vous prêcher ce soir. Et je leur ai dit, maintenant, combien d'entre vous veulent recevoir Jésus comme son sauveur personnel? Et je dirais que la moitié des gens se sont levés, ce qui a fait à peu près 1500 personnes. Environ 500 au moins étaient musulmans. Je ne peux pas prendre de temps pour expliquer les différences entre l'islam et le christianisme, mais il y a une chose, c'est qu'ils ne croient pas que Jésus est mort sur une croix. Et ils ne reconnaissent pas que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, quand tous ces gens se sont levés, bien sûr, tout passait par un interprète. Je les ai conduits dans une prière et en demandant à chacun de me suivre et j'ai commencé la prière ainsi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu et le seul chemin vers Dieu, que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Ils ont tous répété ces paroles après eux, après moi, à haute voix. Je ne vais pas vous dire qu'ils ont tous été sauvés, mais avoir 500 musulmans ou plus dans un pays musulman, devant d'autres musulmans qui disent de telles paroles, cela ne peut s'accomplir que par la puissance du Saint-Esprit. Je me suis ensuite dit que je devais accomplir notre promesse de prier pour les malades. Il n'y avait pas moyen d'aller jusqu'à eux. Dans tous les cas, cela aurait pris des heures. Alors j'ai dit, combien d'entre vous veulent qu'on prie pour la guérison? Et je crois que 90% des gens ont levé la main. Et je veux dire, ils étaient malades. Les gens au Pakistan sont malades. Il n'y a pas beaucoup de gens en bonne santé. C'est typique de beaucoup de pays du tiers-monde. J'ai dit, je vais prier pour vous et je veux, si vous avez une partie de votre corps malade, que vous y posiez votre main. Et quand je prie, croyez que Dieu va vous toucher. J'ai fait une prière, tout cela devait être traduit en ourdou. Et j'ai fini la prière et je sentais qu'il fallait que je fasse quelque chose. Alors j'ai dit, qui croit que Dieu l'a guéri? Quelques personnes ont levé timidement la main. Alors, il y a eu une perturbation à 3 mètres devant moi. L'un des chrétiens pakistanais y est allé et a découvert ce qui s'était passé. Un garçon musulman de 12 ans environ était né sourd et muet. Il n'avait jamais entendu et il n'avait jamais parlé. Et quand j'ai prié, il a reçu son oui et il a commencé à essayer de parler. Ils ont monté sur l'estrade et l'endroit est devenu un chaos. Toutes les femmes pakistanaises de l'église ont décidé que nous devions leur imposer la main. Et sans nous demander notre avis, elles ont pris nos mains et les ont placées sur leur tête. La nouvelle s'est répandue. Et à l'endroit où nous sommes allés ensuite, il y avait une foule d'environ 16 000 personnes. Et les Pakistanais locaux ont estimé qu'en 9 jours, entre 8 et 9 000 personnes avaient prié pour leur salut. Le dirigeant du groupe m'a dit un an plus tard que quand il est arrivé, il était responsable de 5 églises. Un an plus tard, il était responsable de 18 églises. Ça, c'était les amener dans l'orangerie. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu plus tôt, si je me souviens bien, nous étions en Zambie. Il y avait une foule d'environ 7 000 Africains pour la plupart des responsables rassemblés et j'avais prévu de leur parler systématiquement de la croix et je l'ai fait durant 6 matinées successives. Je leur ai dit, c'était en principe tous des chrétiens. Maintenant, Dieu a une merveilleuse réserve et elle est remplie d'absolument tout ce dont vous avez besoin, que ce soit spirituel, matériel, physique, pour ce temps et pour l'éternité. Il y a tout ce dont vous avez besoin. Mais la réserve a un gardien. Et pour avoir quelque chose de la réserve, vous devez devenir ami avec le gardien. Je leur dis, vous connaissez le nom du gardien. Certains ont dit Jésus. Je leur ai dit, c'est une bonne réponse, mais elle n'est pas juste. Le gardien de la réserve est le Saint-Esprit. Toute la richesse de la Trinité, Père et Fils, est dans la main du Saint-Esprit. Combien il est important de comprendre cela, vous voyez. Vous pouvez avoir toute la bonne doctrine, la bonne théorie, dire la bonne chose, mais vous n'aurez que ce que vous obtenez par le Saint-Esprit. Il garde la réserve. Puis je leur dis, le Saint-Esprit a une clé qui ouvre la réserve, une seule. Et elle a une forme très spéciale. Connaissez-vous la forme de la clé? Ils n'ont pas deviné. Alors j'ai dit que c'était la croix. Et ce n'est que quand le Saint-Esprit utilise la croix pour ouvrir la réserve que les trésors de Dieu nous sont accessibles. C'est donc une petite introduction à ce que je vais vous enseigner ce soir. Je crois que je dois aussi le soutenir par une expérience personnelle. J'ai mentionné plus tôt ce soir que j'ai connu le Seigneur Jésus dans une chambrée de l'armée britannique durant la Seconde Guerre mondiale vers minuit. J'étais un païen tellement ignorant que je ne savais même pas qu'il fallait aller à l'église pour être sauvé. Alors, avant qu'il ne se passe quoi que ce soit, j'ai été sauvé dans une chambrée. 10 jours plus tard environ, j'étais baptisé dans le Saint-Esprit dans cette même chambrée. Personne n'avait dit que je devais aller à l'église pour être baptisé. En 24 heures, Dieu m'avait donné le don d'interprétation des langues. Je ne savais pas qu'il fallait attendre 6 mois pour avoir le don spirituel. Peu de temps après, l'armée britannique m'a envoyé à l'étranger, en Afrique du Nord, où j'ai passé les 3 années suivantes dans les déserts d'Afrique du Nord. Pendant cette période, je suis tombé malade d'une maladie que les médecins ne pouvaient pas guérir, une maladie de peau. Si vous lisez le petit livre « Le flacon de médicaments de Dieu », vous y trouverez mon témoignage personnel et comment j'ai reçu la guérison. J'ai été transporté d'un hôpital à un autre et j'ai fini dans un hôpital militaire britannique, dans un endroit appelé Abala, sur le canal de Suez. Bien, il y avait une femme assez peu commune à cette époque dans la ville du Caire. C'était un brigadier de l'armée du salut. Elle était brigadier parce que son mari, qui était mort, était brigadier, et dans l'armée du salut, la veuve prend le grade de son mari. Elle avait 76 ans à cette époque et, chose assez inhabituelle chez les salutistes, elle parlait en langue. Elle était aussi militante pour le parler en langue que les salutistes sont militants normalement pour le salut. Elle avait aussi reçu une guérison divine de la malaria en Inde 25 ans plus tôt et n'avait jamais plus repris de médicaments depuis. Je l'avais rencontrée une fois, et cette précieuse femme, pour laquelle j'ai toujours remercié Dieu, a entendu parler de ce soldat britannique gisant sur son lit d'hôpital, et a organisé une petite fête avec un soldat britannique, un chrétien, pour conduire la voiture, une petite voiture, et sa collègue américaine de l'État d'Oklahoma, une jeune femme d'environ 25 ou 30 ans. Ils ont fait le voyage jusqu'à Abala. Ils ont garé la voiture dans l'enceinte de l'hôpital et le brigadier a traversé le service avec son béret, ses rubans, son uniforme ce qui intimida l'infirmière et elle m'a obtenu la permission de sortir et de m'asseoir dans la voiture. Je me suis retrouvé, on n'avait pas consulté pour savoir si je voulais le faire ou pas. Je me suis retrouvé assis dans la voiture sur le siège arrière d'une toute petite voiture 4 places. Devant, il y avait le conducteur. Sur le siège conducteur, le brigadier de l'armée du salut, devant, avec lui, et cette femme missionnaire américaine à l'arrière, à côté de moi. Le brigadier dit de prier. Et quand le brigadier dit de prier, on prie. Et nous avons commencé à prier, et la femme américaine à côté de moi a commencé à trembler. Et je sentais tout son corps vibrer. Puis, elle a commencé à parler en langue. Et bien sûr, je savais ce que c'était. Puis, j'ai commencé à trembler, moi. Et tous les gens de la voiture ont commencé à trembler. Et la voiture s'est mise à trembler. Et je veux dire que la voiture tremblait comme si on roulait à 80 à l'heure sur une route en mauvais état. Mais on ne bougeait pas et le moteur ne tournait pas. Je savais que Dieu était rentré dans la voiture. Et en plus, je me suis senti humble parce que je savais que c'était pour moi qu'il était venu. Après le message, ou le don en langue, cette dame eut ce que je savais être l'interprétation. Bon, les Néo-Zélandais ne vont probablement pas comprendre cela, mais j'étais très british. Je veux dire que j'avais l'habitude de parler comme les annonceurs de la BBC. Et je n'avais pas rencontré beaucoup d'Américains. Et cette précieuse femme était de l'État d'Oklahoma. Bien, pour ceux qui savent, aux États-Unis, ils parlent un langage, en Oklahoma, ils parlent un langage très différent de celui d'un professeur d'université de Cambridge. Mais quand elle a donné l'interprétation, c'était dans l'anglais le plus parfait. J'ai étudié Shakespeare. J'étais un grand admirateur de l'anglais de Shakespeare. Je me suis émerveillé de l'élégance de la langue. Au cours de cette interprétation, elle a dit ces mots que je n'ai jamais oubliés. Ils sont clairs aujourd'hui comme en 1942. C'était ces mots, et je veux que vous les écoutiez parce qu'ils ont un impact pour changer la vie. Considère l'œuvre au calvaire, une œuvre parfaite, parfaite à tous égards, parfaite à tous égards. Vous avouerez que c'était de l'anglais élégant. Beaucoup de gens ne pourraient pas dire de telles phrases. De plus, cela me parlait particulièrement parce que j'avais étudié le grec durant de nombreuses années et j'étais familier du grec du Nouveau Testament. Et si vous lisez votre Nouveau Testament en anglais, vous verrez qu'une des dernières expressions de Jésus sur la croix est « Tout est accompli ». Mais en grec, c'est un seul mot, « tetelestai ». Et c'est le temps parfait d'un verbe qui signifie « faire quelque chose à la perfection ». Alors, vous pouvez le paraphraser en disant « c'est parfaitement parfait, c'est complètement complet ». Et ainsi, quand le Saint-Esprit dit de considérer l'œuvre au calvaire comme une œuvre parfaite, parfaite à tout égard, parfaite à tous aspects, mon esprit a tout de suite compris que c'était le commentaire du Saint-Esprit sur le « tout est accompli ». Et j'ai réalisé que le Saint-Esprit me montrait que si je pouvais comprendre ce qui avait été accompli par la mort en sacrifice de Jésus sur la croix, tous mes besoins pourraient être pourvus. Il n'y a rien que je ne puisse recevoir dont j'ai besoin. C'était une révélation. Je suis sorti de la voiture aussi malade que si j'étais entré. Mais Dieu m'avait montré où se trouvait la réponse à mon problème. Et c'est ce que je veux partager avec vous ce soir. Nous allons avoir un service de guérison demain soir et je crois que beaucoup vont recevoir la guérison. Mais je me demande si tous seront guéris. Dieu ne guérit pas tout le monde miraculeusement lors d'une réunion. Il y a beaucoup de façons différentes de s'approprier la guérison. J'ai reçu ma guérison après cette révélation. J'ai été guéri à travers Proverbe 4, 20, 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est de la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Et il y avait une autre traduction possible dans la marge pour santé, médicaments. Et je me suis dit que c'était la réponse à mon problème. Si Dieu, à travers la parole, a pourvu à la santé ou aux médicaments pour mon corps, il n'y avait pas de place pour la maladie. Et ainsi, c'était très simple. J'ai décidé de prendre la parole de Dieu comme un médicament. J'étais aide-soignant dans le corps médical de l'armée royale, alors je savais comment on prend un médicament, 3 fois par jour après le repas. Et c'est ainsi que j'ai pris la parole de Dieu comme médicament, 3 fois par jour après le repas. Et le travail s'est fait. Elle m'a complètement guéri et de façon permanente dans un des climats les plus malsains du monde. Je vous dis donc que Dieu a sa façon de vous guérir. Mais de quelque façon que vienne la guérison, elle est basée sur ce qui a été fait par Jésus sur la croix. Et je ne vais pas me contenter de vous offrir une orange. Je vais vous inviter dans le verger. Une fois que vous y serez, vous pourrez vous y promener et vous servir de toutes les oranges que vous voudrez. Et vous n'épuiserez jamais le verger de Dieu. Maintenant, j'aimerais partager avec vous, à partir de l'Écriture, ce que j'ai appris de cette expérience. Je me suis décidé à découvrir ce qui a été accompli par la mort de Jésus sur la croix. Je veux vous dire que je suis encore en train de le découvrir. C'est une étude inépuisable. Mais je vais partager avec vous ce que je crois est la clé pour comprendre la croix. La clé, c'est que sur la croix a eu lieu un échange divinement ordonné. Tout le mal qui était destiné par la justice à la race humaine, à chacun d'entre nous individuellement, a été mis sur Jésus, afin que tout le bien destiné à l'obéissance sans péché de Jésus nous soit donné à nous qui croyons. C'est très simple, c'est très basique. Mais en déroulant cette vérité, elle contient tout ce dont vous aurez jamais besoin. Je vais vous le dire encore plus simplement. Tout le mal qui nous était destiné est allé sur Jésus afin que tout le bien destiné à Jésus soit à notre disposition. C'était la grâce de Dieu. Nous n'avons rien à réclamer. Nous ne pouvons rien lui demander de faire cela. Nous ne savions même pas qu'il allait le faire. Nous ne pouvions pas comprendre ce qu'il allait faire. Mais par sa grâce incommensurable, souveraine et volontaire, il a mis en place cet échange. Et de plus, à travers ses prophètes, il avait prédit des centaines d'années avant sa mise en place. Peut-être que la prophétie la plus pertinente est celle d'Ésaïe 53. J'aimerais regarder ce passage pour voir ce qui est dit dans Ésaïe 53. Il parle d'un serviteur de l'Éternel qui n'est pas nommé. Son nom n'est pas donné. Mais les apôtres et les auteurs du Nouveau Testament sont tous unanimes dans leur compréhension pour dire que ce serviteur de l'Éternel sans nom d'Ésaïe 53 est Jésus de Nazareth. Et nous allons regarder à un verset pour l'instant. Ésaïe 53, 6. C'est le verset central des 27 chapitres d'Ésaïe. Et c'est vraiment le verset central de l'expiation. Nous étions tous errants comme des brebis. chacun suivit sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui, Jésus, l'iniquité ou la culpabilité ou la rébellion de nous tous. Quelle est la culpabilité universelle de la race humaine? Nous n'avons pas tous cambriolé une banque ou commis l'adultère, ni volé ou été ivre. Nous pouvons citer beaucoup de choses que nous n'avons pas faites. Mais il y a une chose que nous avons tous faite. Nous avons cherché notre propre voie. Et cela, en un simple mot, c'est la rébellion. La rébellion est le péché universel de la race humaine. Peu importe la nation, la couleur, la race, nous sommes tous coupables de rébellion. La miséricorde de Dieu, c'est que quand Jésus a été pendu sur la croix, le Seigneur a mis sur lui l'iniquité ou la culpabilité ou la rébellion de nous tous. Ce mot en hébreu, et je ne vais pas prendre ce temps ce soir pour citer les passages de l'Ancien Testament, mais le mot hébreu est arbon, signifie non seulement culpabilité ou rébellion, mais aussi toutes les conséquences négatives de la culpabilité. C'est le même mot qui veut dire les deux choses. Ainsi, Dieu a mis sur Jésus, sur la croix, la culpabilité ou la rébellion de toute la race humaine et les conséquences négatives de la rébellion, afin que nous soyons libérés de toutes ces conséquences négatives et que nous recevions les bienfaits de la justice de Jésus. Nous allons regarder 8 ou peut-être 9 aspects, cela dépend du temps que nous avons, de cet échange. Je veux que vous saisissiez bien ces choses. Je vais le faire avec ma main gauche pour le mal et ma main droite pour le bien. Le mal est venu sur Jésus afin que le bien puisse nous être donné. Voyons maintenant certains aspects spécifiques de l'échange. Et nous regarderons d'abord aux deux versets précédents d'Ésaïe 53, versets 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il y a deux aspects à ces versets. Il y a l'aspect spirituel et l'aspect physique. Le spirituel tout d'abord. Jésus a été puni pour nos transgressions et nos iniquités. Et parce qu'il a été puni, nous pouvons être pardonnés. Et étant pardonnés, nous avons la paix avec Dieu. Tant que nous ne sommes pas pardonnés, nous n'avons pas la paix avec Dieu. La paix avec Dieu ne vient qu'à travers le pardon. Mais le pardon a été rendu possible parce que Jésus a porté la punition de nos iniquités. Alors, je vais vous le dire très simplement. Jésus a été puni pour que nous soyons pardonnés, d'accord? Maintenant, j'aimerais partager avec vous sur cela. Je veux utiliser vos mains. Je veux que vous vous engagiez de tout votre être dans cette vérité. Regardez-moi une fois et je vais vous demander de le faire. Jésus a été puni pour que nous puissions être pardonnés. D'accord? Maintenant, nous allons le dire ensemble avec la main gauche, le mal, la main droite, le bien. Et souvenez-vous, votre main droite est opposée à ma main droite, gauche. Ne vous trompez pas, sauf pour ceux qui sont derrière moi. Bien. Vous êtes prêts? Jésus a été puni pour que nous soyons pardonnés. C'est le premier aspect de l'échange. Il est dit dans le même verset, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de douleur qui s'est chargée. » Mais ce ne sont pas des traductions littérales. La traduction littérale est « Il a porté nos douleurs et il s'est chargé de nos maladies. » Et la conséquence, c'est que par ses blessures, nous sommes quoi? Guéris. Vous voyez? Je sens que vous avez besoin que ce soit confirmé. Gardez votre doigt dans Ésaïe 53 et allez dans une deux passages du Nouveau Testament. Tout d'abord, Matthieu 8. C'est simplement un accident de traduction. Car presque toutes les traductions anglaises ne traduisent pas ces mots par leur traduction littérale claire. D'autres langues le font. Les langues scandinaves utilisent les mots normaux pour maladie et douleur. La traduction allemande de la lutte utilise Krankheit et Schmerz, qui sont les deux mots pour maladie et douleur. C'est juste une erreur malencontreuse. Je crois que des millions de chrétiens anglophones ont été en quelque sorte privés de la révélation de l'aspect physique de la guérison de Jésus. Si vous regardez maintenant Matthieu 8, 16, 17, c'est le commencement du ministère public de Jésus. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Qu'est-ce qu'il cite? Ésaïe 53, 4, 5. Vous voyez, Matthieu était juif, il comprenait l'hébreu, mais il était aussi inspiré par le Saint-Esprit. Nous allons maintenant nous tourner vers 1 Pierre 2, 24. Qui cite encore une fois Ésaïe 53, 1 Pierre 2, 24. C'est le milieu d'une phrase, mais ne laissons pas cela nous perturber. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, c'est la croix, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures ou blessures duquel vous avez été guéri. Le verbe grec pour guérir ici est le mot grec normal pour guérison physique, d'où vient le mot grec docteur. Il a toujours la même signification en grec moderne aujourd'hui. Alors c'est très clair. Sur la croix, Jésus a pris nos infirmités et a porté nos maladies. Et par ses blessures, nous sommes guéris. Il s'est substitué à nous. Alors, nous le faisons maintenant, la main gauche et la main droite. Je le fais une fois et je vous invite à le faire avec moi. Jésus a été blessé pour que nous soyons guéris. Vous n'avez pas besoin d'être un théologien pour comprendre cela. Bien, en fait, les théologiens trouvent probablement cela difficile. OK, vous êtes prêts? Jésus a été blessé pour que nous soyons guéris. OK, ce sont les deux premiers aspects de l'échange. Numéro un, il a été puni pour que nous soyons pardonnés. Numéro 2, il a été blessé pour que nous soyons guéris. Si nous allons maintenant au verset 10 d'Ésaïe 53, nous trouverons le déroulement de ce qui a été accompli. Mais il plut à l'Éternel de le meurtrir ou de l'écraser. Il, Jésus, il a soumis à la souffrance. S'il livre son âme en sacrifice pour le péché, il verra une semence. Il prolongera ses jours et le plaisir de l'Éternel prospérera en sa main. Remarquez le milieu de la phrase, s'il livre son âme en sacrifice pour le péché. On pourrait le traduire aussi, et cela ne fait pas de différence pour le sens, quand son âme fera une offrande pour le péché. De quelque manière que vous le traduisiez, le fait est que l'âme de Jésus a été faite offrande pour péché pour toute l'humanité. Ce même mot qui est traduit par offrande pour le péché ou offrande pour la culpabilité est aussi traduit par culpabilité dans l'Ancien Testament. La raison en est que selon la loi de l'offrande pour le péché de la prêtrise du Lévitique, quand une personne avait péché, elle devait amener son offrande pour le péché. Ce pouvait être un mouton, un bouc, un bélier, un bœuf. Elle l'amenait au prêtre, lui confessait ses péchés, Le prêtre metta la main sur la tête de l'animal qui était offert et symboliquement transférait le péché de l'homme à l'offrande, à l'animal. Et le prêtre tuait l'animal et non l'homme. Autrement dit, l'animal payait la peine du péché de l'homme parce que l'animal s'était identifié au péché de l'homme. Le Nouveau Testament dit clairement qu'en dernier ressort, les bœufs, les moutons et les boucs ne peuvent pas racheter le péché d'un homme. C'était simplement des images prophétiques préliminaires de Jésus. Mais l'âme de Jésus est vraiment devenue une offrande pour le péché. Et en devenant une offrande pour le péché, il est devenu péché. Si vous gardez votre doigt sur Ésaïe 53 et que vous regardez 2 Corinthiens 5, 21, vous verrez que Paul rend compte de ce fait. 2 Corinthiens 5, verset 21. Et je vais mettre les noms à la place des pronoms pour que cela soit plus clair. Jésus, qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devions en lui justice de Dieu. Si vous ne connaissiez pas les ordonnances et les sacrifices de l'Ancien Testament, vous n'apprécierez pas pleinement 2 Corinthiens 5, 21. Paul cite Ésaïe 53, 10. Il livre son âme en sacrifice pour le péché. Parce que quand son âme est devenue une offrande pour le péché, son âme est devenue péché, du péché de l'humanité. Vous n'avez pas besoin d'être théologien pour discerner l'échange. Je vais vous le dire une fois et j'espère que vous le comprendriez dès la première fois quand je vais vous le dire. Jésus a été fait péché avec notre péché pour que nous soyons rendus justes de sa justice. Regardons 2 Corinthiens 5, 21 encore une fois, afin d'être sûr de bien comprendre. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Remarquez encore l'échange. Jésus a été fait péché avec notre péché, afin que nous devenions justes avec la justice de qui? Sa justice. Pas la nôtre, la sienne. Bien, je l'ai dit une fois, et j'espère que vous allez me suivre. Jésus a été fait péché avec notre péché afin que nous soyons rendus justes de sa justice. OK? Vous l'avez? Bien. Jésus a été fait péché avec notre péché afin que nous soyons rendus justes de sa justice. Pouvez-vous pousser un soupir de soulagement? Vous n'avez pas à vous battre pour faire de votre mieux pour être juste. Vous devez recevoir par la foi la justice de Jésus-Christ. Tout autre niveau inférieur de justice ne vous permettra pas d'aller au ciel. Mais Dieu a prévu pour vous et moi de nous rendre justes de la justice de Dieu. Bien, pour l'échange suivant, nous allons nous tourner vers Hébreux 2, verset 4. Nous pourrions voir beaucoup de passages différents, mais je pense que celui-ci est le plus court et le plus simple. Hébreux 2, verset 4. Non, ce n'est pas verset 4. C'est le verset 9. Excusez-moi, j'ai mal marqué le verset. Hébreux 2, 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Ainsi, le salaire du péché, c'est la mort. Quand Jésus a été fait péché pour nous, avec notre péché, il était inévitable qu'il en ait payé la peine qui est la mort. Ainsi, Jésus a goûté la mort pour nous. Vous n'avez pas besoin d'être théologien pour connaître le contraire, afin que nous puissions quoi? Partager sa vie. Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et qu'elle soit quoi? La vie. Et cette vie en abondance. Les gens, l'échange est très simple. Jésus a connu la mort pour que nous puissions, j'aimerais dire, partager sa vie. OK? Vous êtes prêts? Jésus a connu la mort pour nous, afin que nous puissions partager sa vie. Voyez-vous comme c'est clair, logique et concret? Imaginez-vous, je vous dirais, qu'il m'a fallu beaucoup d'années pour comprendre cette vérité de la parole de Dieu. Je vous partage en une heure ou deux des choses qui m'ont coûté des heures, des jours, des semaines, des mois, des années. J'ai dit coûté, mais après tout, c'était une bénédiction et un privilège. L'échange suivant est affirmé dans Galatiens, Galates 3, 13 et 14. Galates 3, 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Souvenez-vous que la croix est appelée le bois, parce que dans certaines langues, en hébreu notamment, et en suédois en Afrique de l'Est, du bois est du bois qui soit coupé ou non. Vous comprenez? La croix est donc un arbre coupé. « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham, eux pour les païens, son accomplissement dans Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Maintenant, combien de théologiens avons-nous ici qui peuvent discerner les deux opposés? Qu'est-ce que le mal? La malédiction. Quel est le bien? La bénédiction. Ainsi, Jésus sur la croix a été fait malédiction. Il est dit dans le livre de Deutéronome 21, 22, 23 que celui qui est pendu au bois devient une malédiction. Alors, quand Jésus a été pendu au bois de la croix, tout juif qui connaissait le Torah, l'Ancien Testament, savait que Jésus avait été fait malédiction. Il était visiblement fait malédiction. Il a été fait malédiction pour que nous puissions recevoir la bénédiction. C'est un domaine dans lequel Dieu m'a conduit dans les 4 ou 5 dernières années. Et parce que je ne vais pas avoir le temps d'aller dans les détails, je voudrais juste vous recommander le même livre que j'ai mentionné plus haut, « Comment passer de la malédiction à la bénédiction ». Il n'est pas juste de simplement vous dire que vous êtes racheté de la malédiction pour recevoir la bénédiction sans vous dire comment faire. Laissez-moi juste citer 7 indications d'une malédiction. La plupart des malédictions ne concernent pas simplement des individus. Elles concernent des familles ou des communautés plus larges. Et le trait essentiel de la malédiction et de la bénédiction dans la Bible, c'est qu'elle passe de génération en génération, à moins que quelque chose ne se passe pour les briser. Nous avons eu des gens qui avaient des problèmes qui remontaient à des centaines d'années. Je ne sais pas s'il y a des Écossais ici ce soir, ne levez pas la main s'il y en a. Mais j'ai appris que les Écossais étaient une nation qui maudissait, pas dans le sens de jurer, mais dans le sens de se maudire l'un l'autre. Et Ruth et moi avons traité ces dernières années deux familles qui avaient eu des malédictions de prononcer sur leur famille depuis 1600 et qui étaient toujours à l'œuvre dans leur famille. L'une en Écosse, l'autre en Australie. Passons très rapidement. Permettez-moi de vous donner, sur la base de mon expérience personnelle, 7 indications communes qu'il pourrait y avoir une malédiction sur votre vie. S'il n'y en a qu'une, je ne dis pas forcément qu'il y a une malédiction. Mais s'il y en a plusieurs, et si elles se trouvent dans votre famille, dans différents domaines et générations, vous pouvez être pratiquement certain qu'il y a une malédiction. les voici. Premièrement, des dépressions mentales et émotionnelles. Deuxièmement, des maladies chroniques et répétitives, en particulier si elles sont héréditaires. C'est l'indication d'une malédiction. Troisièmement, des fausses couches à répétition ou des problèmes féminins. Et dans notre ministère envers les malades, Ruth et moi, nous sommes arrivés au point que quand nous en rencontrons, nous les traitons comme une malédiction. Quatrièmement, des ruptures de mariage et des dysfonctionnements familiaux. S'il y a des antécédents dans votre famille de séparation et de rupture qui continuent et se répètent sans cesse, vous pouvez être certain qu'une malédiction est sur votre famille. Cinquièmement, l'insuffisance financière continuelle. Nous pouvons tous connaître des difficultés financières à certains moments, mais si cela persiste et si nous n'en sortons jamais, vous pouvez être pratiquement certain que c'est une malédiction. Sixièmement, ce qu'on appelle avoir tendance aux accidents. Je suis naturellement enclin aux accidents. Et c'est une fait statistique objectif que la compagnie d'assurance prenne en compte quand il fixe votre prime d'assurance. Et septièmement, dans une famille, des antécédents de suicide ou de mort non naturels. Nous n'allons pas nous étendre sur cela ce soir, mais nous allons affirmer la solution. Merci Seigneur qu'en tant que chrétiens, nous n'avons pas à nous focaliser exclusivement sur le problème. Nous traitons le problème pour aller vers la solution. Nous allons donc traiter cela maintenant. Jésus a été fait malédiction afin que nous recevions la bénédiction. Vous êtes tous théologiens ce soir. Bien, vous êtes prêts. Ce n'est pas une formalité de dire cela. Chaque fois que vous le dites, Dieu et le Saint-Ange et le Saint-Esprit prennent tous note de ce que vous dites. Souvenez-vous, Jésus est le souverain sacrificateur de quoi? De notre confession exacte. Vous faites une confession. Bien. Nous allons le dire ensemble. Jésus a été fait malédiction afin que nous recevions la bénédiction. Amen. Le suivant fait vraiment partie de cela, mais il est tellement important que je le traite séparément. Jésus sur la croix a enduré la pauvreté afin que nous puissions partager sa richesse. Cela m'est venu comme une révélation il y a des années ici en Nouvelle-Zélande. J'ai été invité avec ma première femme une année pour parler et ils avaient promis de nous payer nos frais sur place et le voyage d'aller et de retour pour les États-Unis. Ils n'avaient pas d'argent, mais c'était OK, ils ont dit, nous allons faire une offrande et ils voulaient que je prêche sur l'offrande. J'étais donc motivé. Si je ne me souviens bien, c'était à Auckland. Bien, j'ai souvent enseigné sur l'argent et j'ai ce livre ici qui est une partie de mon enseignement, Le plan de Dieu pour votre argent. J'avais mes notes et je prêchais sur ce sujet, mais quelque chose d'étrange s'est passé. En suivant mes notes, je voyais mentalement Jésus sur la croix et je l'ai vu comme il était réellement, dépouillé, totalement nu. Et en définissant les aspects de la pauvreté, j'ai vu que chacun s'appliquait exactement à Jésus sur la croix. Ils ont fait l'offrande à la fin. Ils avaient 4 cartons utilisés pour les pommes devant l'estrade. Et les gens ont accouru devant pour y mettre leur offrande ou leur promesse de don. Et cette seule offrande a couvert tous les frais. Le lendemain, Lydia et moi étions à Auckland avec le pasteur et nous avions rencontré des gens qui allaient au distributeur pour retirer l'argent qu'ils avaient promis de donner la veille. Je n'ai jamais vu une offrande si abondante. Et les gens étaient ce que la Bible appelle des donneurs hilares. Ils étaient presque ivres, tellement ils étaient excités par le fait de donner. Mais maintenant, je vais partager avec vous la révélation que j'ai eue. Tout d'abord, laissons faire l'Écriture. les Écritures du Nouveau Testament, 2 Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Vous n'avez pas besoin d'être théologien pour voir le contraire, n'est-ce pas? Quel est le mauvais? La pauvreté. Quel est le bon? La richesse. Bien. Maintenant, l'opposé de cet échange, c'est en 2 Corinthiens 8 que nous avons déjà cité une fois, mais on va le refaire. Je me sens mieux à chaque fois quand je le fais. Alors viens ici au micro, merci. Mais Dieu est puissant pour faire abonder toute grâce envers vous, afin qu'ayant toujours en toutes choses tout ce qui se fit, vous abondiez pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit. Regardez si vous pouvez trouver quelque chose qui n'est pas couvert. Dieu est capable de donner toute grâce, pas un peu de grâce, mais toute grâce, afin que nous puissions toujours avoir une abondance dans toutes choses, abondance dans toute bonne œuvre. C'est le niveau de provision pour le peuple de Dieu devenu possible par le sacrifice de Jésus à la croix. Il est fait pauvre afin que je puisse partager, je préfère dire l'abondance, parce que je ne pense pas que ce soit biblique que chaque chrétien ait un grand compte en banque ou conduit une Rolls-Royce. Mais je crois vraiment que c'est la volonté de Dieu que chaque chrétien ait assez pour pouvoir dans ses besoins et encore de rester pour partager aux autres. Parce qu'il y a plus de bénédictions en donnant qu'en recevant. Et Dieu ne veut pas que ses enfants vivent sur un niveau inférieur de bénédiction. Alors il pourvoit en abondance afin que nous puissions vivre au niveau supérieur de donner. Maintenant, certaines personnes décrivent Jésus dans son ministère terrestre comme une sorte de pauvre prédicateur errant en haillons et faisant l'aumône. Je ne pense pas que ça soit vrai. Je ne crois pas qu'il était pauvre. Il était habillé comme un homme normal de son temps et il avait une robe très élégante sans couture qui avait tant de valeur que les soldats à la croix n'ont pas voulu se la partager. Ils ont tiré au sort. Je dis juste cela, Jésus n'avait pas sur lui beaucoup de liquide. Il utilisait simplement la carte de crédit de son père. Et elle était toujours honorée. Je veux dire, tout homme capable de nourrir 5000 personnes, plus les femmes et les enfants dans le désert, et les laisser dans l'abondance, n'est pas pauvre. Il y a eu un temps où la question est venue sur l'argent de la taxe. Il n'est pas envoyé à Pierre à la banque, il a envoyé à la mer de Galilée. Ce que je veux dire, c'est que l'argent était là. Quelle différence cela fait-il? Jésus a dit lors de la scène et ses disciples, « Quand je vous ai envoyé sans bâton, ni bourse, ni ou provision, avez-vous manqué de quelque chose? » Et qu'ont-ils répondu? De rien. Il y a beaucoup de missionnaires qui ont des ressources abondantes et qui possèdent des voitures et des maisons, mais à qui il manque beaucoup de choses. Mais ces premiers apôtres ne manquaient de rien parce qu'ils étaient pourvus de l'abondance de Dieu. Bien, regardons maintenant un moment le chapitre des malédictions. Qui est? Qui sait quel est le chapitre des malédictions? Deutéronome 28, exact. Ce sont les bénédictions et les malédictions. Il y a 68 versets. C'est un long chapitre. Les 14 premiers versets sont les bénédictions et les 54 restants, les malédictions. Et si vous avez un doute sur ce qu'est une malédiction, lisez ces 54 versets. Vous pourriez voir qu'en tant que chrétien, vous avez subi des malédictions là où vous auriez dû profiter des bénédictions. Au milieu de cela, deux versets de la liste des malédictions, versets 47 et 48. Et s'il vous plaît, notez que c'est une malédiction. Deutéronome 28, 47 et 48. Pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance et de toutes choses, servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, c'est la volonté de Dieu. Mais voici l'alternative pour les incroyants et les désobéissants. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses. Prenez ces quatre affirmations. La faim, la soif, la nudité, la manque de tout. Qu'est-ce que c'est en un mot? La pauvreté? Exact. L'absolue pauvreté. Vous ne pouvez pas être plus pauvre que ça. Avoir faim, soif, être nu et manquer de tout. Imaginez Jésus pour un moment sur la croix. Il avait faim. Il n'avait pas mangé depuis 24 heures. Il avait soif. L'un de ses derniers mots a été « J'ai soif ». Il était nu. Il avait dépouillé de tous ses vêtements. Et il manquait de tout. Il n'avait pas une seule chose à lui. Quand le temps est venu pour lui d'être enseveli, il a été enseveli dans une robe et un tombeau emprunté. Pourquoi? Parce qu'il avait brisé la malédiction de la pauvreté. Pour que nous ayons quoi? L'abondance. C'est exact. Vous voyez l'échange? Bien, disons-le. Je le dis une fois et vous le dites avec moi. Jésus a connu la pauvreté pour que nous partagions son abondance. OK? Jésus a enduré la pauvreté pour que nous partagions son abondance. Réjouissez-vous, c'est une bonne nouvelle. Je dis aux chrétiens que ce n'est pas un péché pour un chrétien d'être heureux. Nous allons voir rapidement deux autres aspects. Le temps commence à être court et j'aimerais finir dans une minute. Mais Jésus, et je vais le dire, a subi notre honte afin que nous partagions sa gloire. Si vous lisez Matthieu 27, vous verrez la description de la crucifixion. Matthieu 27, 35 et 36. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Ils lui ont retiré tous ses vêtements. Un homme à cette époque avait quatre pièces d'habits. Ils étaient quatre soldats. Chacun a pris une pièce. Puis, ils ont tiré au sort de la robe sans couture. Puis, il a dit au verset 36, puis ils s'assirent et le gardèrent. J'aimerais le dire de façon pudique, mais Jésus a été exposé nu au jeu de tous les passants. Et vous remarquerez quelque chose de très intéressant. C'est que dans le récit de l'Évangile, les femmes sont venues à lui en restant à distance. La seule femme qui est venue près de lui était sa mère. Là-bas, la Bible est si discrète. Il a enduré notre honte. Quel est le contraire ici? Nous allons encore une fois regarder dans Hébreux chapitre 2. Et verset 10, le verset qui suit celui que nous avons regardé. Il convenait en effet que celui, Dieu le Père, pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Quel était le but de Dieu? Amener beaucoup de fils à quoi? À la gloire. Comment cela a-t-il été rendu possible? Parce que Jésus a enduré notre honte afin que nous partagions sa gloire. J'ai découvert en conseillant les gens que l'une des blessures les plus profondes du cœur humain est celle de la honte. Il y a beaucoup de causes différentes, mais une très commune dans notre culture contemporaine, ce sont les enfants qui ont été abusés sexuellement dans leur enfance. En Amérique, on estime que c'est le cas pour un enfant sur quatre aux États-Unis aujourd'hui. Et cela laisse une cicatrice, une honte. Mais gloire à Dieu, nous n'avons pas à nous arrêter au problème. Nous avons la solution. Et j'ai aidé beaucoup de gens. Jésus a subi votre honte afin que vous partagiez sa gloire. Vous trouverez certaines personnes, je ne regarde personne, je vais faire très attention, mais vous verrez des gens qui, quand ils prient, ne lèvent jamais leur visage vers Dieu. Ils gardent toujours la tête baissée comme ça. En général, le problème, c'est la honte. Quand une personne est délivrée, Job dit, « J'élèverai mon visage sans tache vers Dieu. » Souvent, nous ne sommes pas conscients du lien secret qui nous hante. Mais la libération de tout lien est pourvue à travers la croix. Faisons l'échange. Je crois que vous pouvez le faire cette fois-ci sans mon aide. Vous êtes un merveilleux groupe. Bien. Jésus a subi notre honte afin que nous partagions sa gloire. Bien. Encore un peu, un de plus, et nous allons terminer. Ce n'est pas la fin de la liste, mais c'est la fin pour ce soir. L'échange final est entre le rejet et l'acceptation. Et encore une fois ici, en exerçant mon ministère auprès des gens, j'en suis arrivé à la conclusion que le rejet est la plus grande blessure qu'un cœur humain puisse porter. Une marque de rejet est qu'une telle personne se sent toujours à l'extérieur tout en regardant à l'intérieur du cercle. D'autres peuvent entrer, je ne peux pas. Une autre marque de rejet est l'incapacité à exprimer l'amour. J'en dis que nous aimons Dieu parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a aimés le premier. Je crois que nous ne pouvons pas exprimer l'amour si l'amour n'a jamais été exprimé à nous. Il faut une expression d'amour pour libérer une expression d'amour. Et la raison la plus courante pour laquelle dans notre civilisation contemporaine, beaucoup portent le rejet. C'est à cause de l'attitude des parents. Tout d'abord, si une femme est enceinte et en veut à cette petite vie qu'elle porte dans son ventre et dit des choses comme « Je ne voulais pas de notre enfant », cette petite vie sent le rejet dans le ventre et le bébé naît souvent avec un esprit de rejet. J'ai traité beaucoup de cas comme ça. Après, quand un bébé naît, le premier désir de tout enfant planté en lui par Dieu, c'est l'amour continuel et exprimé de ses parents. Et en premier lieu, celui des pères. J'en suis arrivé à la conclusion que c'est l'amour du père chaleureux et exprimé, qui donne la sécurité à l'enfant. Oh, la force d'être porté dans les bras de papa et serré contre sa poitrine. Mais vous voyez, dans notre culture contemporaine, je crois qu'aux États-Unis, 50% des enfants aujourd'hui n'ont pas reçu cela et partent dans la vie avec cette blessure intérieure du rejet. Oh, combien je remercie Dieu qu'il y a une solution. Je vais vous raconter une petite histoire, ce ne sera pas long. C'était dans un camp il y a quelques années de cela, aux États-Unis, et je devais prêcher, et je traversais le terrain du camping. J'allais être en retard, alors je marchais rapidement. Il y avait là une femme qui marchait aussi vite que moi, en sens inverse, et nous sommes rentrés en collision. Après que nous nous soyons repris, elle me dit, « Monsieur Prince, j'ai prié pour que Dieu... pour que si Dieu voulait que je vous parle, nous nous rencontrions. » Bien, lui dis-je, nous nous sommes rencontrés. Mais je ne peux vous accorder que 2 minutes, parce que je dois être dans l'auditorium pour prêcher. Alors, dites-moi quel est votre problème. Et elle m'a parlé durant environ 1 minute. Elle aurait bien encore continué 20 minutes. Écoutez, lui dis-je, je n'ai plus le temps. Je crois que je comprends votre problème. Je veux que vous fassiez cette prière après moi. Je n'avais pas vraiment en tête ce que j'allais dire. Je ne lui ai pas dit ce que j'allais dire, mais j'ai dit quelque chose du style, « Père, je te remercie parce que tu es mon Père. Tu m'aimes vraiment. Je ne suis pas rejeté. Je ne suis pas non désiré. Je suis membre de la famille de Dieu, la meilleure de l'univers. Merci Seigneur, tu es mon Père, je suis ton enfant, tu m'aimes et je t'aime. Merci, merci, merci Seigneur. » Et je l'ai laissé là et lui disant au revoir. Environ un mois plus tard, j'ai reçu une lettre de cette femme. Elle décrivait la situation, comment nous nous étions rencontrés pour que je sois sûr que je me souvenais d'elle. Et elle disait, « Je voulais juste vous dire, Monsieur Prince, que faire cette simple prière après vous a complètement changé ma vie. » Que lui était-il arrivé? Elle était passée du rejet à l'acceptation. Elle a réalisé ce que c'était que d'être un enfant de Dieu. Écoutez, si vos parents ont été défaillants, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas changer dans le passé. Mais nous pouvons garantir votre relation avec Dieu. Regardez à cette image de Jésus, et c'est le dernier passage que nous allons voir. Dans Matthieu 27, verset 45 jusqu'au 51. Depuis la sixième heure, c'était midi, jusqu'à la neuvième, c'est 15 heures, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et verset 46, et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, 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 lama sabachthani », c'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, « Il appelle Eli ». Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Eli viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Vous voyez, Jésus n'est pas mort des effets physiques de la crucifixion. Quand Pilate a entendu qu'il était déjà mort, il a été surpris, parce que normalement, il aurait dû vivre, disons, au moins deux heures de plus. De quoi est-il mort? Il est mort d'un cœur brisé. Qu'est-ce qui a brisé son cœur? Le rejet. De qui? Du Père. C'est exact. Pour la première fois dans l'histoire de l'univers, le Fils de Dieu a crié au Père et il ne lui a pas répondu. Il a fermé ses oreilles, a détourné ses yeux. Pourquoi? Parce que Jésus avait été fait péché de notre iniquité et Dieu ne peut pas regarder les péchés avec faveur. Jésus a souffert notre rejet. Et immédiatement après qu'il a abandonné son esprit, la première chose qui est arrivée, c'est que le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Il est extrêmement épais. Les êtres humains n'auraient pas pu le déchirer en deux, même de vie là-bas. Mais c'était de haut en bas parce que c'était l'affirmation que Dieu l'avait faite. C'était le voile qui séparait les hommes pécheurs d'un Dieu saint. Et quand Jésus a subi notre rejet, Dieu nous a acceptés comme ses enfants. Regardons à Éphésiens 1 un instant. Éphésiens 1, nous allons lire le verset 3. Jusqu'à 6. Éphésiens 1, 36. Béni soit le Père, Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui t'a béni de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste, en Christ, selon qu'il nous a élus en lui, ayant avant la fondation du monde, pour que nous fussions saintes et irréprochables devant lui, en amour, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange et à la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. Quel est l'échange? Voyons si vous pouvez le dire sans mon aide. Jésus a subi notre rejet afin que nous ayons son acceptation. Merveilleux. Nous le disons encore une fois. Jésus a subi notre rejet afin que nous ayons son acceptation. Permettez-moi de revenir très rapidement sur les 8 aspects de l'échange que nous avons vu. Et je vais le faire avec ma main. Je vous dis ce que c'est. Je le fais une fois et vous le dites après moi une deuxième fois. Nous n'allons pas tarder, le temps passe vite, d'accord? Jésus a été puni pour que nous soyons pardonnés. Écoutez, cette fois, je vais vous le personnaliser. Ne dites pas « nous », dites « je ». Jésus a été puni pour que je sois pardonné. Vous pouvez vraiment vous relaxer là-dedans maintenant. Jésus a été blessé pour que je sois guéri. Jésus a été fait péché avec mon péché afin que je sois fait juste avec sa justice. Jésus est mort à ma place pour que j'aie la vie. Jésus a été fait malédiction pour que je reçoive la bénédiction. Jésus a subi ma pauvreté pour que je partage son abondance. Jésus a subi ma honte pour que je partage sa gloire. Jésus a subi mon rejet pour que je puisse être accepté. Maintenant, si nous croyons vraiment cela, vous savez ce que nous devons faire? Nous devons remercier Dieu. Nous ne pouvons rien faire d'autre. Prenons un petit moment pour le remercier. Tous, remercions le libérant. La meilleure expression de foi, c'est de le remercier. Remerciez-le. Amen. Remerciez-le. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Loué soit ton merveilleux nom. Merci, Seigneur. Nous loué soit ton merveilleux nom. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous te croyons. Nous te remercions. Nous te bénissons. Béni soit ton saint nom, Seigneur Jésus. Tu as fait tout cela pour nous. Et nous voulons te dire merci ce soir. S'il y en a entre vous ici qui n'ont jamais remercié le Seigneur Jésus pour ce qu'il a fait pour toi, qu'il est mort à ta place, qu'il a fait péché pour toi, afin que tu puisses être juste pour avec sa justice, qu'il a enduré sa acceptation, nous voulons vous donner en quelques moments une opportunité. Que ce soit votre décision pour vous ce soir. Nous parlons maintenant des gens qui n'ont jamais vraiment accepté l'expiation pour eux, pour leur péché, pour leur âme de Jésus, afin de recevoir la vie éternelle. Alors, nous avons dépeint ce soir à partir de la parole de Dieu et le Saint-Esprit attire votre cœur et vous voulez dire « C'est pour moi ce soir ». Je veux être sûr que c'est pour moi. Je ne veux pas sortir de cet endroit, pas être sûr et dans la confusion. Et c'est très simple. Ce que je vais vous demander ce soir, alors vous voulez vous engager avec Dieu une fois pour toutes. Si vous voulez le faire, levez-vous et je vais vous conduire dans une prière très simple et ça va faire une différence. N'hésitez pas. Alors il ne faut pas attendre parce que nous n'allons pas allonger le service encore plus. Si vous le ressentez, que c'est votre besoin, que vous devriez faire une affirmation personnelle pour accepter le sacrifice de Jésus pour vous, alors Jésus dit, si vous voulez le confesser devant moi publiquement, il va vous confesser devant le Père. Si vous le régnez, il va vous régner devant le Père. Alors, si vous voulez faire cette confession publique maintenant, alors il ne faut pas regarder autour de vous. Si Dieu, c'est à vous que Dieu parle, alors ne sois pas embarrassé, ne sois pas gêné. Levez-vous et c'est Dieu. Dis Dieu, je le veux ce soir. Voilà. On va prier pour toi. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Peut-être que je ne vois pas tout le monde qui s'est mis devant. Mais Il y en a, je vois quatre. Ne vous asseyez pas. Levez-vous. Merci. Alors, reste avec moi. Dieu te bénisse. Je pense qu'il y en a beaucoup plus encore. Ne soyez pas timide. Loué soit Dieu. Alors, si je ne te vois pas, ne sois pas gêné. Dieu, restez debout. Ce que je vois, et je suis content avec toi, c'est le nombre d'hommes qui se sont levés. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, alléluia, merci Seigneur. Oui, j'ai vu cette femme, quand je ne vous vois pas, alors que ça ne soit pas un gêné, Dieu vous voit, il y en a encore plus. Alors, certains d'entre vous ont été allés à l'église toute votre vie, mais vous n'avez jamais vraiment fait cette décision personnelle, cette affirmation. Dieu te bénisse, je vous vois, vous vous levez, Dieu vous voit. Alors, je n'ai pas encore cette liberté de fermer, de clôturer, de clore cette culte. Je ne veux pas vous presser, je veux vous aider. Il y a encore quelqu'un qui a besoin de se lever. Dieu, nous te prions au nom de Jésus et nous libérons cette personne. Sois béni et nous libérons toute cette personne qui soit liée par la peur. Nous la libérons dans le nom de Jésus. Dieu te bénisse. Levez-vous, restez debout, restez debout. Cette femme aussi, ne soyez pas gênés. Frères et sœurs, je veux vous dire, Dieu te bénisse, mon frère. Un jour, si vous êtes gênés, d'être debout pour Jésus. Nous allons être gênés d'être maintenant. Il y a deux encore. Alors, tous les chrétiens, priez encore. Soyez patients, c'est très important. Amen. J'ai eu le sentiment qu'il y a encore un ou deux des personnes jeunes. Peut-être en dessous de l'âge de l'adolescent, que vous avez besoin d'être debout. Je sais que c'est une grande chose pour vous, mais si Dieu vous pousse, alors faites-le. Il y a des gens ici, dans l'auditoire, j'espère que vous aussi vous êtes debout, parce que c'est pour vous aussi bien que pour les gens ici. Amen. Amen. OK. Tous ceux qui sont debout, je veux que vous fassiez cette prière et vous allez prier le Seigneur Jésus, pas pour Frère Prince. Et je voudrais que vous le fassiez aussi bien que vous pouvez vous entendre vous-même, afin que vous sachiez, quand vous sortez d'ici, que vous avez fait cette prière. Faites cette prière et adressez-vous à Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et le seul chemin vers Dieu, que tu es mort pour moi, pour mes péchés, et que tu es ressuscité d'entre les morts. Et je te remercie pour ce que tu as fait pour moi. Et par la foi, je reçois tout cela maintenant. Je te reçois, Jésus, comme mon Sauveur. Et je te confesse comme mon Seigneur. Accepte-moi et fais de moi un enfant de Dieu. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, on va remercier Dieu ensemble.
Bonjour, j'espère vraiment que ce message de Derek Prince a été une bénédiction pour vous. Quand vous allez sur notre site web et vous voyez l'adresse de notre site web ci-dessous, vous allez trouver encore plus d'une centaine d'articles de Derek Prince que vous pouvez télécharger gratuitement et aussi d'autres messages audio et vidéo de Derek Prince. Vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement sur la méditation que vous pouvez recevoir gratuitement tous les jours également sur notre site web. Que Dieu vous bénisse et j'espère à bientôt.